Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Aujourd'hui, 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. L'occasion dans les rendez-vous santé de revenir sur les méfaits du tabac dont on parle souvent. Mais ce matin, de revenir sur un point important, la culpabilité de certains fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter. Même après plusieurs tentatives, ils sont confrontés à l'échec, à la nullité. Pour de nombreux fumeurs, arrêter de fumer est un vrai parcours du combattant. Mais les faux pas ou les dérapages font partie de la lutte à mener avec soi-même. Faut-il se culpabiliser? Est-ce un signe de faiblesse? Cela traduit-il un manque de volonté? Pourquoi certains réussissent-ils du premier coup? Sont-ils plus forts? Faut-il essayer plusieurs fois pour réussir? Ce sont toutes ces questions que nous allons poser ce matin à nos invités. Avec nous, déjà installés sur le plateau de la radio africaine, le professeur Daniel Thomas. Merci d'avoir répondu à notre invitation, professeur. Vous êtes ancien chef du service de cardiologie de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. C'est à Paris. Vous êtes porte-parole de la Société francophone de tabacologie. Merci de nous rejoindre. Et au téléphone, c'est Katie Vautrin. Merci d'être avec nous, Katie Vautrin. Vous êtes tabacologue sur la ligne 3989. C'est un dispositif de tabac info service. On aura l'occasion de le présenter tout à l'heure. Alors, on va commencer quand même avec ces chiffres qui sont plutôt positifs sur la baisse du tabagisme. Selon les données du baromètre santé 2017 de Santé publique France, la prévalence du tabagisme quotidien passe de 29,4% en 2016 à 26,9% en 2017, soit une baisse de 2,5 points. Cela représente quand même 1 million de fumeurs quotidiens de moins en un an. Alors, est-ce que j'ai bien fait de dire, professeur, que c'était quand même des données assez positives?
Oui, ce sont des données très positives même, puisque c'est la première fois depuis l'an 2000 que l'on voit une baisse de tabagisme en France. On avait baissé entre 2000 et 2005, et elle a remonté de 2005 à ces dernières années. Et là, effectivement, en un an, c'est un résultat assez spectaculaire et qui est lié en grande partie effectivement à la prise de conscience de la grande nocivité du tabac et surtout les actions de santé publique qui ont été menées.
Alors c'est un constat qui est particulièrement marqué chez certaines catégories de personnes, dont les hommes de 18 à 24 ans et les femmes de 55 à 64 ans. Pourquoi ?
Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir que cette baisse touche les jeunes. Et ça, c'est très important, oui. Puisque effectivement, on continue à entrer dans le cycle du tabagisme et dans sa dépendance, eh bien, on risque d'avoir des difficultés à avoir un impact global sur la population. Donc, que les populations les plus jeunes, en particulier que cette baisse chez les hommes de 18-24 ans, c'est particulièrement intéressant à constater. Et on le constate également dans les enquêtes chez les plus jeunes, chez les 17 ans. C'est pareil, il y a eu une baisse de 7 points de prévalence du tabagisme dans cette population des 17 ans.
Alors, encore des chiffres. Hein. Les données du baromètre soulignent de fortes disparités hein, selon les régions. Et l'Île-de-France et les pays de la Loire sont les régions où l'on fume le moins. Alors, c'est vrai qu'on aurait l'impression qu'il y a plus de fumeurs en région parisienne, en Île-de-France notamment.
Ouais, je pense qu'on a cette sensation parce qu'il y a une concentration de population qui fait que l'on voit éventuellement, et en particulier dans la rue actuellement, puisqu'on ne peut plus fumer dans les lieux couverts et les lieux publics intérieurs. Et finalement, on voit beaucoup de fumeurs dans la rue et ça frappe. Mais c'est la densité de la population qui donne cette sensation. Mais c'est vrai que l'île de France se distingue effectivement avec les pays de la Loire par une prévalence plus faible.
Oui.
Et une prévalence plus forte, par contre, dans certaines régions, en particulier les régions du Nord, les régions de l'Est, les régions frontalières en particulier.
L'Occitanie, les régions particulières
frontalières, où les gens, effectivement, peuvent arriver à se procurer du tabac à un prix inférieur et donc pas d'impact du prix du tabac dans ces régions, ou moins d'impact en tout cas.
Alors pour en finir avec ces chiffres, autre fait marquant, le tabagisme quotidien diminue également chez les personnes les plus défavorisées.
Alors ça, c'est un point encore plus intéressant, puisque jusqu'à présent, on soulignait, et c'était extrêmement marqué dans le précédent baromètre, une très grande différence entre les gens qui avaient soit une éducation à un niveau de scolarité plus important ou des revenus plus importants. Il y avait plus de fumeurs, en particulier chez les chômeurs. Et là, ça a tendance à s'atténuer de façon très significative. Et ça, c'est un bon signe également, c'est-à-dire qu'il y a une réduction des inégalités par rapport au sevrage tabagique.
Un mot peut-être sur cette étude qui est Yves Autrin.
Mais nous, on se félicite justement de ces chiffres parce qu'on se dit que justement toutes les actions que Santé publique France met en place, c'est-à-dire moins sans tabac, l'augmentation du prix du paquet, le paquet neutre, ça nous permet cette réussite.
Les autres aides à l'arrêt également, les différents dispositifs, la ligne téléphonique gratuite, le site internet Tabac Info Service où il y a quand même plus de passages en fait.
Tout à fait. Effectivement, on a de plus en plus d'appels, de questions aussi via le site internet ou l'application. On sent qu'il y a vraiment un engouement pour justement cet arrêt du tabac et ça nous permet justement d'aider toutes ces personnes qui sont en demande de conseils.
Alors, professeur, pourquoi c'est si difficile d'arrêter définitivement la cigarette ?
Alors, c'est difficile d'arrêter la cigarette parce que, et je pense que la plupart des gens le savent, c'est que la cigarette est une drogue. Quand je dis une drogue, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser puisque c'est un produit qui va entraîner une dépendance, une addiction très forte et dont il est donc difficile de se séparer. C'est-à-dire que quand on y a touché, et en fait, il faut très peu de temps et très peu de fumage pour devenir dépendant, et c'est pour ça, et d'autant plus qu'on a commencé jeune.
Oui.
Et donc, ces circuits de dépendance, d'addiction s'installent. Et le fumeur, alors pas tous les fumeurs, mais une très grande majorité des fumeurs, sont dépendants de leurs cigarettes à cause de cela. Donc, en fait, c'est pas une question. Disons que souvent les fumeurs pensent que c'est une question de volonté.
Oui, c'est vrai.
Hein, ils pensent que c'est une question de volonté, donc ils se culpabilisent quelque part, ils se disent qu'ils ne sont pas bons. En fait, ce n'est pas vrai. C'est difficile parce que c'est une addiction, c'est une drogue dure, c'est une drogue qui est aussi dure que les drogues illicites et qui, donc, dans beaucoup de cas, rend le sevrage assez difficile, mais pas impossible. On va le voir.
Alors, on va le voir à travers le témoignage d'une personne qui va nous rejoindre tout de suite. Bonjour, merci de nous rejoindre. Ça va ?
Oui, ça va, très bien.
Alors, c'est compliqué d'arrêter de fumer.
Oui.
Et dans votre cas, vous avez rechuté plusieurs fois.
Ah oui, j'ai rechuté pas mal de fois, ça c'est clair. J'ai arrêté plusieurs fois, 9 mois, des sessions de 9 mois. Mais en tout cas, le sentiment de culpabilité, il apparaît des fois, il disparaît d'autres fois. Et là, je suis dans une phase où il disparaît parce que plus que la culpabilité, il faut que j'essaie de comprendre les raisons qui me motivent et qui m'encouragent encore à fumer, d'autant plus aujourd'hui, quoi. Et après, tout à l'heure, vous avez dit démo, échec, nullité, combat, mais... Malgré ça, je me sens dans un défi là en ce moment, mais c'est vraiment une vague, hein, une période. Je me sens dans un défi, aller chercher au plus profond de moi la force, les explications pour pouvoir arrêter. Pourtant, c'est quelque chose d'horrible, c'est pas bon, c'est désagréable de le faire même bien souvent. Et puis, même dans la pratique sportive, c'est très, très, très handicapant. Et quand on se retrouve les week-ends aussi, on est toujours affolé parce qu'on n'a pas fait le stock, et quitte à aller dépenser plus alors qu'on n'a pas les moyens. Mais voilà, après, je retiens des mots aussi qui résonnent en moi, notamment ceux d'un médecin qui m'a suivi, qui, après plusieurs échecs, me disait « Bravo, c'est bien, c'est étonnant qu'on dise ça ». Mais non, ça, en fait, c'est pour dire que plus on essaie, plus on est dans la tentative de l'arrêt, plus il y a de chances d'y arriver un jour. Alors qu'au début, on pense qu'on a échoué, que c'est un échec et que finalement, ça ne mènera à rien et qu'on va continuer, on va s'empêtrer dans ce bordel.
On voit quand même que dans ce témoignage, professeur, elle est bien consciente de tout ce qui lui arrive, elle est bien consciente de tous les processus et tous les sentiments qu'elle traverse depuis qu'elle a décidé d'arrêter la cigarette.
Alors, ce témoignage est très intéressant parce qu'il reflète plusieurs choses. Tout d'abord, votre envie d'arrêter. On sait qu'à peu près les trois quarts des fumeurs ont envie d'arrêter. Oui. Ils l'expriment comme ça, hein, comme vous. Je veux arrêter, je veux sortir de cette dépendance. Bon. Et puis, il y en a également un peu plus d'un tiers qui ont essayé, tenté vraiment d'arrêter. Et et même plusieurs fois, comme vous. Mmh. Et c'est vrai que ce que l'on vous a dit, que les échecs ou les reprises, plutôt que rechutes, je préfère ce mot reprise, hein, parce que chute, c'est-à-dire que finalement, ça me culpabilise.
Oui, c'est vrai.
Il y a un traumatisme dans la chute, hein, alors que la reprise. Donc cette reprise, elle est assez rituelle dans le sevrage. Hein. Je veux dire qu'il ne faut pas que ça vous arrête, il ne faut pas que ça vous donne une sensation d'échec définitif. Au contraire, comme on vous l'a dit, plus vous allez essayer et plus les chances d'arrêter sont grandes. Et donc, il ne faut absolument pas baisser les bras et il faut continuer.
Merci.
Et puis, essayer effectivement de trouver des motivations. On va en parler tout à l'heure, je pense. Hein, des motivations qui vous parlent à vous personnellement et qui soient plus porteuses que celles peut-être que vous avez eues dans le passé.
Alors, justement, comment éviter de se culpabiliser? Et est-ce que se culpabiliser, c'est un signe de faiblesse, professeur?
Non, c'est assez naturel quand on échoue, je veux dire que l'on pense, et surtout si l'on pense que c'est sa propre volonté qui est en cause, c'est un petit peu normal qu'on se sente culpabilisé. Mais je veux dire qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça d'abord parce que vous n'êtes pas coupable. Je veux dire que vous avez commencé à fumer certainement à un âge où vous n'avez même pas pensé que ça puisse vous donner ce que vous avez vécu depuis. Donc, je veux dire que ce n'est pas un choix délibéré et conscient que vous avez pu faire à ce moment-là. Donc, il faut, de ce fait, il n'y a aucune culpabilité. C'est comme si, je veux dire que si vous aviez une maladie dont vous n'êtes pas, disons, responsable non plus, je veux dire, vous ne seriez pas culpabilisé, même s'il y a des malades qui se culpabilisent d'être malade. Mais je veux dire que c'est voilà, il ne faut absolument pas vous culpabiliser. Il faut considérer que vous êtes plutôt, disons, victime ou disons, avec une situation de difficulté, mais pas de culpabilité. Parce que la culpabilité, en plus, est un peu paralysante. Parce que quand on se sent coupable, oui. Je veux dire qu'on se sent plus faible.
Oui.
Hein? Alors, comme vous l'avez exprimé, en ce moment, pour moi, c'est un défi. Donc, si vous dites ça, déjà, ça veut dire que vous avez une force en vous qui fait que vous avez envie, vraiment très fortement envie, de faire et de réussir.
Alors, au lieu de parler de volonté, on devrait plutôt parler de motivation, alors, professeur.
Tout à fait. C'est le terme qu'il faut vraiment employer. Et quand on dit motivation, la motivation, c'est quelque chose de positif. Hein, la culpabilité, l'échec, je veux dire que ça, c'est plutôt négatif. Et ça vous renvoie dans le miroir quelque chose qui est négatif. Donc, la motivation, c'est quelque chose de positif. Alors, la motivation... Souvent, les médecins avancent des motivations santé, bien sûr,
oui.
Et elles sont évidentes. Et peut-être qu'elles sont en vous également et que vous dites, pour ma santé, ça serait mieux. Le problème des motivations santé, même si elles sont réelles et qu'il y a un gain énorme à arrêter de fumer sur le plan santé, c'est qu'elles sont un petit peu virtuelles. C'est-à-dire que si on pense santé, on se dit, je vais éviter de faire un infarctus ou je vais éviter d'avoir un cancer lié au tabac. Mais ça pourrait ne pas arriver, puisqu'il n'y a jamais qu'un fumeur sur deux qui va mourir d'une maladie liée au tabac. Donc c'est déjà énorme, mais je veux dire que vous pouvez, si, dans le déni, vous dire ben oui, mais ce n'est pas moi que ça va arriver, inconsciemment. Hein, voilà, donc la motivation santé, elle n'est pas forcément extrêmement porteuse, même si elle est nécessaire, parce que c'est quand même l'objectif essentiel que vous visez. Mais ce qu'il faut pour pouvoir effectivement être porté et arrêté et ne pas reprendre, c'est avoir une motivation qui vous est personnelle et qui est beaucoup plus forte que la motivation santé.
C'est exactement
alors,
ce que je
cherche. Vous allez me dire, mais alors laquelle? Mais je vais vous répondre, mais c'est la vôtre. Et c'est-à-dire qu'il faut que en vous-même, vous trouviez, soit par rapport à des situations personnelles, par rapport à un entourage, par rapport à... quelque chose qui vous parlera à vous plus qu'à n'importe quel autre fumeur, ce sera votre élément de motivation et c'est celui qui va vous porter pour arrêter et pour ne pas reprendre. Alors on peut l'envisager, on peut en citer. Moi, souvent, ce que j'utilise, par exemple, chez les jeunes fumeurs qui sont sportifs, qui font du sport et qui vous disent ah, « je fume peu, je fais du sport, c'est pas grave ». Je dis « si, c'est pas que c'est pas grave, c'est que ça vous handicape ». Et votre sport, vous pourriez le faire avec beaucoup plus de confort, avec beaucoup plus de compétitivité et de performance. Et là, parfois, effectivement, j'ai une étincelle dans les yeux, je dis « ah oui, tiens, ça, ce serait intéressant ». Et parfois, d'ailleurs, quand ils ont arrêté, ils se sont rendus compte que ça avait un effet très positif sur leur capacité à l'effort. Et donc là, pour eux, à la limite, alors que c'est un élément de motivation qui paraît relativement banal, mais c'est celui qui va les porter, qui va les pousser d'une part à arrêter et d'autre part à ne pas reprendre pour rester dans le confort. Bon, ça c'est un élément. Il y a l'autre élément et qui est justement celui que vise l'augmentation du prix du tabac, c'est l'élément financier.
Oui.
Qu'est-ce que je vais gagner à ne plus fumer si je mets tout ça dans ma petite cagnotte? Au bout d'un an, combien d'euros je vais avoir? Et ça, c'est une motivation qui est plus triviale, mais qui est très importante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est même celle qui marche le mieux au niveau santé publique. Et puis après, il y a les motivations qui sont beaucoup plus personnelles, qui sont les motivations par rapport à votre entourage. Est-ce que je vis avec quelqu'un qui fume? Non. Ah bah tiens, voilà quelque chose d'intéressant, puisque je vais lui faire un immense plaisir à arrêter de fumer. J'ai les enfants, soit petits, soit adolescents. Je vais arrêter pour eux, pour un, ne pas les enfumer, même si je fais attention de ne pas fumer devant eux.
Et ne pas donner le mauvais
exemple. Et je veux dire que ça, c'est une corde extrêmement intéressante, parce qu'elle est du domaine affectif. Et ça, il n'y a rien qui nous porte plus dans la vie que les données affectives. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Alors, chacun aura sa motivation personnelle. Là, j'en cite quelques-unes, mais je veux dire que c'est à vous, en fait, de trouver ce qui est capable de vous aider le mieux à arrêter et à ne pas reprendre.
Alors, il y a certaines personnes qui arrivent à arrêter comme ça d'un coup. Et d'autres, c'est plus compliqué, ça doit être plus progressif. Pourquoi?
Alors, il y a deux choses. Alors, une fois qu'on a trouvé la motivation, après, il faut avoir des outils aussi. Hein. Ça, c'est le deuxième volet. Hein. Et en particulier, si vous discutez avec un médecin ou quelqu'un qui s'occupe de vous pour le sevrage, et ça va être abordé un petit peu en deux temps. D'abord, travailler un petit peu la motivation, voir qui vous... ce que vous voulez, ce dont vous avez envie, qu'est-ce qui vous êtes comme fumeur, et donc trouver la motivation. Et ensuite, il faut les outils pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Je dis toujours, quand on veut porter un clou, on ne le fait pas avec son pouce, hein, on prend un marteau, on prend un outil. Bon, et ben, arrêter de fumer, c'est pareil. Je veux dire que même si vous avez envie de faire quelque chose,
donc ça se prépare.
Si vous avez envie de planter ce clou, ouais. Si vous n'avez pas l'outil, vous ne pouvez pas le faire. Hein. Donc, vous allez y arriver difficilement. Si vous prenez quelque chose, prenez un baillet en bois, par exemple, ça va pas vraiment le faire pour le clou. Hein. Donc, il faut vraiment un marteau. Donc, c'est pareil. C'est-à-dire que là, au-delà de la motivation, il faut que vous ayez les outils qui vous aident au maximum. Et ça, c'est ce que peut vous proposer, effectivement, le médecin qui vous suit et qui va vous prescrire. Et en l'occurrence, c'est très intéressant, puisque depuis peu, les substituts nicotiniques, c'est-à-dire ce qui vous permet de sortir de la cigarette en vous donnant la nicotine, qui est le produit qui n'est pas toxique dans la cigarette, mais qui est le produit qui vous rend dépendant de la cigarette. Cette substitution nicotinique, qui peut être prescrite et remboursée par l'assurance maladie actuellement, va vous aider à ne pas souffrir quand vous arrêtez, et donc de le faire avec beaucoup plus de facilité, et d'éviter également de reprendre par une envie impérieuse de fumer, ce qui arrive souvent chez les fumeurs qui arrêtent sans rien. Ils y vont très fort, tout d'un coup, comme vous dites, et puis ils ne résistent pas, soit eux, soit leur entourage qui disent « bon, écoute, refume parce que ce n'est pas possible, tu deviens impossible bon. ».
On ne supporte plus.
Donc, l'idée d'arrêter progressivement ou brutalement peut se faire dans les deux cas, c'est-à-dire que quand vous utilisez la substitution nicotinique, quand vous avez un produit qui vous aide à arrêter de fumer dans le confort, ça peut être par choix de le faire brusquement, ou de le faire progressivement. Quand je dis progressivement, c'est-à-dire qu'en même temps que vous allez avoir cette substitution des patchs de nicotine ou des formes buccales d'absorption buccale de nicotine, vous allez continuer à fumer dans un premier temps et vous allez réduire et diminuer progressivement vos cigarettes pour arriver à zéro à terme. Alors, et ça, ça peut être plus ou moins long.
Oui, je suis désolée de vous couper, hein, professeur. Juste rappeler que les substituts nicotiniques sont maintenant remboursés comme les autres médicaments et que le forfait de 150 euros existe jusqu'à la fin de l'année. C'est important.
Exact. C'est-à-dire que pendant cette année, là, 2018, puisque les substituts nicotiniques sont remboursés, le sont depuis peu. D'abord les gommes et puis maintenant les patchs depuis une quinzaine de jours, une dizaine de jours. Ces remboursements qui se font sur prescription médicale, c'est-à-dire qu'il faut aller voir son médecin traitant et qui va vous prescrire ces produits et que le pharmacien va vous délivrer avec tiers payant. Alors que le forfait qui existait déjà auparavant et qui prenait en charge à hauteur de 150 euros par année civile et par fumeur va lui persister cette année pour... disons, arriver à faire la jonction entre les produits remboursés et ceux qui sont pris en charge sur le forfait. Sachant que le forfait, c'est pareil, c'est sur prescription. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat à gérer parce qu'il n'y a pas de tiers payant. Il faut avancer l'argent, il faut que ce soit fait sur une ordonnance à part des autres médicaments, si vous avez d'autres médicaments. Enfin, et c'était un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que le remboursement apporte un plus indiscutable en termes de prise en charge.
Alors, on va écouter maintenant le témoignage de Francis Alopo et les journalistes sur notre antenne. Il nous parle du déclic qui l'a accompagné, qui l'a aidé à arrêter le tabac. On l'écoute.
J'ai arrêté de fumer la cigarette il y a 4 ans. Mais il faut dire que j'ai passé d'abord 2 ans à y penser régulièrement. Et à un moment où, en tant que fumeur, on se dit qu'il vaut mieux arrêter de soi-même plutôt que d'y être contraint à un moment donné pour des raisons médicales. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le plaisir disparaît au profit de l'habitude. C'est le geste mécanique, en fait, qui s'impose de plus en plus. Le plaisir n'existe plus, il n'y a plus que, effectivement, la conscience du danger. Et cette conscience du danger s'amplifie au fur et à mesure. Et c'est là que la décision, évidemment, se prend. Mais entre la décision et l'arrêt effectif, il y a un chemin à faire, forcément. Un jour, mon fils me téléphone en disant « Papa, j'ai quelque chose pour toi, je viens te rendre visite. » Il me dit « Bon, très bien. » Mon fils me fait ce cadeau, dont il s'était occupé lui-même, ma première cigarette électronique. Et donc, je dois dire que j'ai une reconnaissance infinie, évidemment, à l'égard de mon fils, parce que ce geste a été déterminant pour la suite, évidemment. Mais je me sentais doublement engagé, c'est-à-dire engagé vis-à-vis de mon fils, parce que c'était un contrat que nous signions en quelque sorte d'arrêt de cigarette. Je pense que cette idée-là aussi a été permanente. Et j'ai commencé par dire à ce moment-là que la cigarette électronique était ma béquille, que je sortais finalement d'une forme de pathologie en tant que fumeur. J'entrais en convalescence.
Alors, justement, Katie Vautrin, aujourd'hui, Tabac Info Service apporte un accompagnement personnalisé, efficace, pour aider chacun à en finir avec la cigarette à travers de différents services. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, s'il vous plaît?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, le fumeur nous appelle au 3989. On lui, du coup, fait un bilan de son tabagisme où, pendant justement un certain temps, on travaille ses motivations avec lui, comme l'a expliqué le professeur, parce que c'est important d'avoir les bonnes motivations. Et puis après, on met en place la stratégie. Les substituts, s'ils sont nicotiniques, s'ils sont nécessaires. On commence aussi à faire un peu de thérapie comportementale, justement, pour créer de nouveaux rituels. Oui. Et ça, c'est ce qui se fait au cours du premier entretien. Puis après, on va avoir 4 autres suivis où on appelle régulièrement les patients. On les appelle généralement à J3 de l'arrêt, J7, J15 et J30. Donc, on va dire que le premier mois de l'arrêt du tabac, on va les avoir 5 fois au téléphone.
D'accord.
Pour les encourager, réadapter le traitement s'il faut, entendre leurs difficultés et trouver des solutions avec eux pour justement que leur sevrage se passe au mieux.
Oui. Il y a le site internet également, tabac-info-service.fr.
Oui, tout à fait. Où là, il y a plein d'informations sur les méfaits du tabac, mais aussi sur tout ce qui peut y avoir comme difficulté à l'arrêt du tabac, pour trouver des solutions pour vous aider. Il y a les stratégies possibles. Vous avez aussi tout un module questions-réponses où vous pouvez laisser des questions et les tabacologues de mon équipe, mes collègues, on répond ensemble à toutes les questions. Et puis après, il y a aussi l'application de Tabac Info Service où là, le fumeur va voir justement jour après jour le nombre de cigarettes qu'il n'a pas fumées, l'argent qu'il a économisé, les gains de santé qu'il peut faire. Et ça contribue à la motivation aussi.
Il y a également la page Facebook qui compte plus de 100 000 fans qui comptait au 15 mai dernier. Alors, il reste juste deux petites minutes. Professeur, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette émission?
Je pense qu'on a soulevé les problèmes essentiels. Je pense que la première chose, il faut que le fumeur ne se sente pas coupable. Il faut que le fumeur accepte et même envie et accepte de demander de l'aide.
Ouais.
Et quand je dis de l'aide, c'est effectivement pouvoir en parler, pouvoir avoir quelqu'un avec lequel il va en discuter et qui va l'aider. Et troisième chose, qu'il n'hésite pas à utiliser les outils. Beaucoup de fumeurs veulent s'en sortir sans rien. Or, ça, c'est un peu utopique quelque part, puisqu'il y a une addiction forte, on l'a dit. Donc, les produits qui peuvent vous aider, il faut les accepter, il faut les prendre si vraiment vous êtes en difficulté par rapport justement à l'envie impérieuse de fumer et qui dénote en particulier que vous êtes vraiment très dépendant du tabac. Et le critère le plus significatif pour la dépendance, c'est le délai entre lequel vous prenez votre première cigarette par rapport au lever, par rapport au réveil. Ça, c'est le critère le plus fort. Et si vous avez pris si vous prenez rituellement votre cigarette dans la demi-heure qui suit votre lever, effectivement, il y a assurément une dépendance et il ne faut pas hésiter à ce moment-là à utiliser les outils.
Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la Radio Africaine. On vous souhaite aussi une bonne journée. Kitty Vautrin, vous avez peut-être un tout dernier mot à dire. Il reste 40 secondes.
Je veux justement dire que sur la ligne de Tabac Info Service, on a une équipe de tabacologues qui aide quasiment 6 jours sur 7 les fumeurs. Ce sont des vrais entretiens avec des vraies personnes et c'est un vrai service qui est totalement gratuit pour les fumeurs. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à appeler. Il y aura un vrai accompagnement pour cette démarche d'arrêt du tabac.
C'est au 39 89. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venu, professeur, sur le plateau de la Radio Africaine, d'avoir fait le déplacement. À très bientôt. Merci et très bonne journée. Il est 9h55. C'est le moment de marquer la pause et la suite d'Ambiance Africa. C'est juste après. Ne bougez surtout pas.